With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, rezut, et rezut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All is beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les mardis désormais, nous revenons sur un film de patrimoine à l'occasion d'une ressortie en salle ou en copie Blu-ray restaurée. Bonjour, bonsoir les amis, comment ça va bien.
Moi je pleure déjà.
Moi pas du tout, t'es en plein de vent.
Moi je prends l'eau.
Waouh. Ça c'est les jointures qu'il faut refaire. Moi ça m'est arrivé dans ma cuisine, tu sais, j'ai un petit plombier qui vient vraiment à des tarifs.
Ah mais c'est que des métaphores avec le bateau. Ah j'étais pas.
C'est un naufrage cette intro.
Wow. Excellent. Alors drôle, des hein. Indices tout de suite chez vous. Puisque aujourd'hui nous allons parler donc d'un naufrage qui n'en est pas un. J'ai l'impression de faire à Julien Lepers. Aujourd'hui nous allons parler d'un naufrage qui n'en est pas un. Un extrait de ce film est compris dans le générique de l'émission. Et ce n'est pas celui avec Gérard Jugnot. On pourrait également en dire que ce type de pratique balnéaire peut être tonifiante à condition de ne pas prolonger l'immersion trop longtemps. Un dernier indice, mon cœur va continuer.
Oh. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Pour que chaque jour compte.
J'abandonnerai jamais Jack. J'abandonnerai jamais.
Vous aurez bien évidemment reconnu la soupe aux choux. Non, pas du tout. Titanic de James Cameron, sorti sur les écrans en 1997 et qui ressort en salle dans une copie restaurée 4K. Je les vois déjà trépigner autour de cette table. Ils ont envie de vous raconter pourquoi ils adorent ce film, ce qu'il y a de merveilleux dans ce film, qu'est-ce qui est beau dans ce film. Eh bien non, vous allez vous calmer tout de suite. Ma première question, c'est quel est le plus gros défaut de ce film? Au débeauté, Simon.
Il est bien trop court, c'est ce qui lui est souvent reproché. C'est une durée de presque une semaine alors qu'on en aurait
bien pris.
Et alors
Simon, quel est votre plus gros défaut? C'est la générosité.
Ah bah pareil, je suis trop court.
Je pourrais avoir un buzzer, Alexis, s'il te plaît, pour invalider les blagues.
On va réfléchir à ça.
Alors non, quel est le plus gros défaut de Titanic, sérieusement? Ah mais ça vous sèche un peu.
Allez, Sophie. Bill Paxton.
Non.
Pourquoi Bill Paxton? Bien, hein.
Parce que moi j'aime pas du tout toutes les scènes dans le présent. Genre elles me saoulent.
What?
Ouais, et je dis ça en adorant le film, mais je l'ai revu. Et en fait, parce que bon, il fait sa durée, donc j'ai avancé pour les passages que j'aimais, parce que c'est pas la première fois que je vois le film. Et en fait, les passages dans le présent m'intéressent vraiment pas du tout. Du tout.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi...
Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est toi.
J'ai vraiment cru qu'il allait dire un truc du genre.
Eh ben, il l'a fait, hein. C'est intéressant parce que moi, durant mes premiers visionnages, j'avais exactement le même ressenti que toi. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui m'a touché, mais on y reviendra peut-être sur le rapport qu'a le film à l'histoire, l'historicité et l'histoire du cinéma. Mais ce que je trouve excitant et amusant, c'est que le film n'existerait pas, au sens propre, il n'aurait pas été possible sans ces passages dans le présent. Et ça a même été l'excuse de James Cameron pour enfler tout le monde et faire son film.
Arthur, quel est le plus gros défaut de Titanic?
Je pense que je suis le seul à penser ça du film, mais je trouve la deuxième partie trop longue et je trouve la partie sur le naufrage beaucoup trop longue. Voilà. Moi, j'aime les interactions avec les humains, pas le, quand l'eau monte dans le bateau, je suis désolé.
T'aimes pas la partie catastrophe, en fait.
Si, je l'aime bien, c'est juste que j'ai l'impression que James Cameron est peut-être par moment. En fait, tu sens qu'il est tiraillé entre est-ce que j'ai envie de raconter une histoire d'amour aussi belle et tragique qu'elle soit, ou est-ce que j'ai envie de raconter cet événement tragique que je connais, historique,
les
et qu'il est tiraillé entre les deux. Et c'est sans doute l'une des forces du film, et c'est là où moi, mais c'est vraiment très personnel, il me perd un tout petit peu, c'est que moi, je trouve l'une plus intéressante que l'autre. Et du coup, forcément, quand il se concentre sur la partie désastre, ça me touche un peu moins, ça m'impressionne un peu moins, même si je sais la maestria derrière, mais on en reviendra, je pense.
Et c'est là que je comprends qu'on est vraiment radicalement différents, toi et moi, parce que yes. Moi, vraiment, ce que j'aime dans Titanic, c'est le film catastrophe.
Oh yes.
Ah, mais vraiment, c'est le film. Wow. Moi, j'ai déjà une passion pour les films catastrophes, parce que c'est vraiment un genre en déshérence et que j'aimerais revitaliser, parce que bon. Michael Bay.
T'as pas vu Moonfall ?
Ben non, mais.
T'es trop mon best buddy en fait.
Non, mais c'est ça, mais on est. Check. Non, mais moi, vraiment, j'adore
c'est les films. C'est dingue, tu as rencontré un ami autour de cette table.
La tour Infernale, El Plane, le Posidon.
Volcano.
J'adore le concept du film catastrophe.
Et surtout, à partir de la moitié du film, et on va pas faire toute l'exégèse là-dessus, mais ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une relecture intégrale et contraire et opposée de la tour Infernale. Parce que c'est plus l'élément du feu, c'est l'élément à queue, et Dieu sait que l'élément à queue, on aime ça.
Allez, j'aimerais la semaine prochaine, c'est possible.
On verra.
Le point faible de Titanic, Alexis.
Alors, je vais prendre juste 3 secondes pour respirer et me préparer à la vague de haine que je vais recevoir. La musique de Céline Dion est à chier. Voilà.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais
c'est une catastrophe. Je suis homosexuel et je le dis.
Oui, mais quand on voit le film, en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais Céline Dion qui chante et on n'a que la version instrumentale qui est pour le coup magnifique.
Je trouve que Titanic est un film très réussi, même si je suis un petit peu d'accord, moi, la partie du naufrage m'excite beaucoup plus que la partie romantique.
Oh là là.
Et ouais, mais je trouve la partie quand même romantique à la réflexion quand même vraiment intéressante, quoi. Mais...
Simon, une vraie réponse sur c'est une vraie réponse plutôt que la longueur, parce que c'est pas une bonne réponse. Une vraie réponse sincère de ta part, s'il te plaît, pour une fois dans cette émission, tu pouvais avoir
une
dose d'authenticité.
Franchement, respecte-nous.
Alors, il y a quelque chose dont on va sûrement reparler au cours de notre discussion autour du film. Je trouve que le regard que porte Cameron sur une société de classe et de caste et comment il utilise le Titanic, qui en est un exemple presque chimiquement pur, pour en parler, c'est absolument passionnant et ça n'a probablement rarement, sinon jamais, été fait dans un film américain de ce type-là, c'est-à-dire un blockbuster ultra grand public. Il y a rarement eu un discours politique aussi radical en la matière. Néanmoins, ce que je trouve un peu dommage, c'est que tout ça est merveilleusement incarné, mais pas tant que ça dans le personnage de Jack, qui pourtant devrait être celui qu'il porte et qu'il incarne, et qui lui est plutôt une espèce de figure de la pureté. Ça se comprend, je comprends pourquoi il le fait, mais je trouve ça un peu dommage, alors qu'il aurait pu aller, je pense qu'il pouvait aller encore plus loin.
Maintenant qu'on a fait ce tour-là, évidemment, allez-y, faites-vous plaisir, mais si vous voulez, essayez de faire des tunnels de moins de 27 minutes pour nos auditrices et nos auditeurs.
On fera 26-50.
Alors, je vais vous attraper par le callback quand même une dernière fois. Vous avez une phrase pour dire pourquoi dans votre filmographie, je veux pas quelque chose de générique, un peu merdique, etc. Pour vous, personnellement, Titanic est un film important.
Dans notre cinéphilie, tu...
Pour vous, personnellement, pourquoi ce film-là, pour vous, est important, Sophie ?
Anecdote personnelle, et désolée maman d'avance, j'ai vu le film à sa sortie en salle, j'avais 6 ans, j'ai rien compris. C'était vraiment too much, ma mère m'a emmenée parce qu'à l'époque, c'était tellement un phénomène que sur tous les JT, on voyait des gens qui y allaient plusieurs fois d'affilée la même journée, que tout le monde en parlait, c'était un phénomène de masse. Donc ma mère m'y emmène. Moi, c'est trop pour une gamine de 6 ans qui a quasiment vu aucun film en live action ou presque. Du coup, je ne pleure pas à la fin parce que j'ai pas vraiment compris tout ce qui s'était passé. Et ma mère me dit, mais tu as un cœur en pierre. Du coup, à cause de Titanic, j'ai littéralement pleuré pendant tous les autres films que j'ai vus, tristes ou non, pour être sûre de ne pas avoir un cœur de pierre. Encore une fois, désolée maman de t'avoir affichée devant tout le monde.
Allô Lacan ? Certainement pas.
Allô Lacan Bobo ? Comment tu m'as fait, je suis pas beau.
Oh putain, ça dérape dès le début. Là.
Alors, Alexis, pourquoi Titanic est important pour toi personnellement ? Pas dans des grandes considérations, mais pourquoi est-ce que toi, que... c'est quelque chose dans ta cinéphilie qui est...
Parce que je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment eu le sentiment de communier avec des gens de ma génération, des spectateurs de ma génération qui n'étaient pas nécessairement des cinéphiles. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que j'ai vu le film, je devais avoir 9-10 ans, donc j'avais pas une culture cinéphile particulièrement exhaustive, loin de là, mais j'étais déjà cinéphage. J'avais pas vu beaucoup de films dans ma vie, par contre, j'avais vu certains films beaucoup de fois, et j'avais cette pulsion d'aller regarder des films pour essayer déjà... inconsciemment à cette époque-là, hein, mais pour essayer déjà de comprendre un petit peu comment c'était fabriqué tout ça, quoi. Et vers l'âge de entre 8 et 10 ans, c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait le fondement de l'analyse filmique, qui est qu'en fait les films sont réalisés par des gens et qu'il y a une intention derrière et que c'est pas juste un objet magique qui apparaît dans mon écran de télévision. Et Titanic a fait partie, avec d'autres films, notamment des films de Steven Spielberg, du cinéma qui m'a ouvert à ce truc-là. Sauf que autant sur, par exemple, les Indiana Jones, il se trouve que le hasard faisait que j'étais globalement le seul en fait à avoir une appétence pour regarder ces films-là, parce que la plupart de mes camarades mataient des films qui sortaient au cinéma à ce moment-là, et moi je mataisais les films que mes parents avaient enregistrés sur cassette dans les années 90. Et Titanic, ça a été vraiment le moment où on se réunissait pour regarder Titanic en fait. Je me suis réuni avec mes cousines qui sont pas spécialement cinéphiles encore aujourd'hui. En fait, c'est ce moment-là où d'un seul coup t'as vraiment le sentiment qu'un film a réussi à vraiment toucher quelque chose d'universel, à toucher une fibre émotionnelle et artistique universelle. C'est-à-dire que Titanic, c'est impressionnant pour n'importe quel spectateur, c'est bouleversant pour n'importe quel spectateur. La mélancolie qui traverse le film, le travail, la fibre classique, la manière dont il est mis en scène, l'importance allouée au décor, tout ça, c'est des choses qui parlent à tout le monde. Sauf que là où les cinéphiles, parce qu'ils ont peut-être le bagage théorique qui va avec, vont être capables de l'intellectualiser et de se dire « Ah, bah tiens, James Cameron, à ce moment-là, il fait tel plan ou tel dispositif parce qu'il veut procurer telle émotion », le spectateur, entre guillemets, et je dis ça sans mépris, hein, lambda, va juste le ressentir, mais il va le ressentir. Et il va le ressentir dans une proportion qui est beaucoup, beaucoup plus forte que d'autres films populaires de cette époque-là. Donc pour moi, c'est ça, en fait, qui a rendu le film important, même si j'ai des petits griefs contre lui. C'est son universalité.
Arthur, est-ce que, à force de voir ce film, tu aurais pu globalement remplir la piscine dans laquelle a été tourné le film en termes de larmes, puisqu'on
mais
sait
j'ai
que...
J'ai déjà failli le faire ce matin. C'était que la deuxième fois que je le voyais, pour te dire. Non, moi j'ai...
Du coup, il y a eu un dégât des eaux.
Ouais, c'est un peu compliqué.
C'était que la deuxième fois.
C'était que la deuxième fois. En fait, moi j'ai une expérience particulière avec Titanic, parce que je l'ai découvert ce matin même, parce que je l'avais vu auparavant quand j'avais 9 ans. Et j'ai une expérience un peu similaire et différente de celle de Sophie, c'est que moi c'est un film qui est important parce que je l'ai découvert pareil que Alexis. Il y avait un côté, je me souviens très bien, on était chez mon oncle et c'est la première fois qu'on le regardait en VHS sur la télé, je devais avoir 8-9 ans. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vu des adultes pleurer devant un film.
Oh.
Et je crois que ça a libéré quelque chose chez moi de ce qu'on peut ressentir comme émotion devant un film, mais aussi en tant qu'adulte et ce que ça peut dégager. Voilà. Et quand je le revois ce matin... Et que ça m'a terrassé, hein, j'étais inconsolable. J'ai compris pourquoi ce film a fait cet effet-là sur autant de gens, et je crois que j'ai aussi un peu compris pourquoi moi j'ai ce rapport-là au cinéma, où c'est un espace où on peut justement ressentir et s'immerger de toutes ces émotions-là et les faire ressortir.
Et Simon, chez toi ?
Alors, pour moi, ça a été important pour quelque chose qui n'est pas intrinsèquement lié au cinéma, hein, mais c'est la première fois que j'ai compris. Et que j'ai compris, pas intellectuellement, que j'ai ressenti ce que c'était que la tragédie, c'est-à-dire l'inéluctabilité. Quelque chose est donné, quelque chose, il va y avoir une apocalypse, c'est-à-dire à la fois une révélation et un sacrifice terrible, total, qu'on ne pourra pas empêcher. Ce sentiment-là, je crois, il est évidemment dû à la durée du film, c'est-à-dire que plus ça dure, plus ça devient inéluctable, plus c'est présent, et plus ce sera terrible. Et donc ça, moi, gamin, moi, j'avais pas 9 ans, hein, je devais plutôt en avoir 15. Et je l'ai découvert au cinéma et ça a été vraiment un choc, quoi.
On a 5 ans d'écart, moi, je l'ai vu à 7. Ah, 6.
7 ans,
j'en avais 12. Non, j'en avais 12, c'était 98.
En fait, il est né en 96, mais il veut pas le dire.
Ah oui, donc j'avais 11 ans. Oh ouais, tu vois, comme quoi. Mais bref, peu importe. Ce sentiment de ce qu'est le tragique et la fatalité et l'inéluctabilité, ça a été très fort. Et ça s'est doublé en sortant de la salle d'un truc qui, voilà, encore une fois, n'est pas cinématographique, mais qui m'a profondément marqué, le sentiment et qui devient une espèce de certitude que notre monde, ce monde industriel, le monde qui est décrit dans Titanic, mais qui à bien des égards existe encore quand on découvre le film en 97, est un monde qui va fonctionner par soubresauts et par gigantesques apocalypses et gigantesques sacrifices. Et cette fin, entre guillemets, émouvante et positive en trompe-l'œil, tu vois, de notre héroïne qui aura eu une vie incroyable de femme émancipée, moderne et en avance sur son époque, n'est possible que parce que justement, cette société est une société anthropique, voire anthropophage, et qui amène à broyer et à détruire quantité d'êtres humains pour que quelques-uns puissent se transcender. Et ce sentiment-là, ce double sentiment, c'était un truc qui était à la fois vertigineux et un peu terrifiant.
Si vous n'avez évidemment pas vu Titanic, on vous recommande de le voir. On va essayer de vous donner quelques clés. Titanic, comme tous les films de Cameron, c'est un film de la surenchère. C'est-à-dire que c'est un film de la surenchère en termes de budget, en termes d'effets spéciaux. Cameron est un défricheur dans la façon dont il va mettre en place les conditions de tournage de son film. Si vous deviez, et on va refaire un tour de table rapide là-dessus, donner un fil à tirer, c'est-à-dire trouver un fil d'Ariane qui permettrait aux gens qui nous écoutent de se dire comment revoir pourquoi revoir ce film-là ? Qu'est-ce qui fait de ce film-là quelque chose d'exceptionnel ? Quel serait-il ? Et qui veut commencer ? Sophie ?
Titanic, je le cite souvent en exemple pour le comparer à un autre film que je déteste, qui est Argo, de Ben Affleck. Je déteste Argo parce que, peu importe qu'on connaisse dans le détail le fait divers ou pas, on sait qu'ils s'en sortent. Enfin, en gros, c'est écrit d'avance parce que la thématique du film veut que ce soit une fausse tension qui est amenée pour dire est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Bref. Titanic, on sait tous, avant même de voir le film, peu importe son âge, on sait que le bateau coule. Et c'est ultra malin en termes d'écriture scénaristique de placer la tension ailleurs. Et en fait, le ailleurs est multiple. C'est là que je vais parler de ce dont je voudrais parler par rapport à Titanic, qui est, à différents âges, la tension pour moi était ailleurs. C'est-à-dire que pendant longtemps, notamment à l'adolescence, c'était « le couple va-t-il survivre ?» Alors que même si, voilà, vous connaissez souvent sûrement la fin de Titanic. En fait, là, la tragédie, pour moi, c'est la tragédie, en revoyant Titanic, c'était ce qui me fait de la peine, c'est de voir qui meurt et quand, d'un point de vue sociétal. Qui est sacrifié d'abord, et comment, et pourquoi, qui s'accroche le plus longtemps au bateau, ce que ça veut signifier. Et donc, pour moi, Titanic, avant d'être cette envolée technologique, ce chef-d'œuvre d'effets spéciaux, etc., Titanic, pour moi, c'est surtout une masterclass de tension scénaristique. Donc pour moi, mon fil, c'est l'écriture.
Alexis, quel est le fil que tu déroules et qui rend ce film, ou en tout cas la façon de le visionner un peu différente, ou en tout cas ce que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent ?
Bah, en fait, je pense que Titanic est un... C'était Christophe Gans qu'on avait parlé en ces termes, je crois, dans l'émission de Jean-Baptiste Auré à l'époque, pendant les travaux Le cinéma reste ouvert sur France Inter. Si vous avez l'occasion d'écouter l'émission, elle est vachement bien. Il en avait parlé comme, en fait, le dernier grand film classique.
Il me semble que c'était pas Rafik Djoumi qui disait ça.
Non, c'était Gans. D'accord. C'était Gans dans l'émission. Ça, j'en suis à peu près certain. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est à la fois le dernier grand film classique, et en même temps, c'est la preuve, et c'est là où ça m'intéresse, c'est la preuve que le classicisme, au sens où on l'entend, donc dans les années 50-60 à Hollywood, la fameuse période de l'âge d'or, en fait, est jamais véritablement mort. Et je pense qu'il n'est pas mort après la fin officielle de l'âge d'or, il n'est pas mort non plus après Titanic, parce que je pense que ce qu'a fait en fait James Cameron, c'est se poser à la fois comme un cinéaste qui regarde dans le rétroviseur et qui se dit bah, cette forme classique qui a fait ma cinéphilie, qui en fait m'a donné cette vocation, j'ai envie de me l'accaparer, mais j'ai envie de me l'accaparer pour en repousser les limites, comme accoucher d'une espèce de super classicisme. D'où le fait que le film, malgré sa structure narrative assez classique, ça emprunte encore une fois beaucoup à David Lean, hein, raconter une grande page de l'histoire collective par le biais d'un destin individuel, puisqu'en fait ils servent à ça, hein, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, ils servent de point d'ancrage au spectateur pour avoir une place précise dans ce cataclysme collectif. Et donc il y a quelque chose de fondamentalement classique dans la genèse du projet, mais les moyens technologiques mobilisés pour fabriquer le film sont des moyens à l'époque d'une grande modernité, c'est des technologies de pointe qui parfois, pour la plupart d'ailleurs, n'ont pas été utilisées comme ça avant. Donc c'est un film qui est précurseur dans son esthétique, dans sa technologie, mais qui est précurseur pour raviver une flamme du cinéma passé. Et c'est cette espèce de cheminement paradoxal que j'ai identifié chez beaucoup de cinéastes qui me passionnent, chez Martin Scorsese à une époque, chez Steven Spielberg évidemment, et quantité d'autres. Cette approche en fait à la fois passéiste et progressiste, qui pour moi à chaque fois nourrit quelque chose de stimulant, et je pense que Titanic est l'exemple le plus éclatant et le plus spectaculaire de cette démarche-là. Bon, c'est peut-être un peu cérébral et un peu théorique, mais en tout cas moi c'est ça qui m'excite dans l'analyse du film aujourd'hui.
Non, pas tellement, parce que Cameron est dans l'histoire du cinéma quelqu'un qui a en permanence repoussé les limites de ce qui était représentable et de la façon de le représenter. C'est-à-dire qu'il a construit et il a posé des jalons sur... pas uniquement les effets spéciaux numériques, comme on pourrait le penser aujourd'hui avec Avatar 2, mais dans Titanic, il construit une réplique à l'échelle de l'ensemble du bateau. Il va chercher en permanence, il va aller lui-même à voir et filmer les restes du Titanic avec un sous-marin russe. Enfin, il y a quelque chose qui fait que Cameron, Simon... pousse avec Titanic particulièrement, et on pourra parler du budget et des problèmes budgétaires de ce film, puisque le film coûte 200 millions, qu'il a failli ruiner la Fox, que ça a été une sorte de pseudo-scandale avant que ce soit le succès éclatant que c'est devenu. Mais Cameron est quelqu'un qui a en permanence poussé et repoussé les limites de la façon de représenter et des techniques cinématographiques pour donner lieu à ces représentations de...
Peut-être pour bien que les gens qui nous comprennent voient en quoi c'est pas juste « Oh là là, il a fait d'encore plus gros décors, il a fait des décors encore plus réalistes, il a fait des explosions encore plus spectaculaires. » C'est pas tant ça, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on essaye de dire depuis le début, c'est que Cameron invente les outils dont il a besoin. C'est quand même très particulier dans un art. Quelqu'un qui est capable, pas de proposer une œuvre réussie, pas de proposer une pièce maîtresse, pas d'être, si j'ose dire, c'est impropre, hein, mais le meilleur d'une époque donnée. C'est-à-dire qu'il participe à inventer de nouveaux outils pour le médium qui est le sien, en même temps qu'il le pratique. Et il le fait, pas d'une manière expérimentale qui soit inaccessible ou imbitable pour qui n'est pas passionné par le médium, d'une manière très accessible au grand public. Et là, j'en viens, moi, à ce qui toujours, à chaque fois, finit par me passionner chez Cameron, c'est un des meilleurs conteur en activité. On a tendance à le caricaturer en disant « Oui, bon, il a des scénarios un peu classiques, épais, efficaces, académiques. » C'est un des meilleurs conteurs en activité, justement parce qu'il est capable d'emprunter une forme classique sans virer à l'académisme et qu'il est capable de retrouver une espèce d'épure ou de pureté narrative que je trouve absolument sidérante. Il y a dans Titanic, comme dans un certain film dont le titre commence par Ava et finit par Tardeux, une quantité de personnages ahurissantes qui ont tous des enjeux, tous des conflits.
Non mais on refait pas.
Mais je parle de Titanic. Je parle de Titanic là.
Mais
je parle de Titanic.
Non mais précisément pas dans Titanic. Précisément Titanic, c'est resserré autour d'un couple principal.
C'est pas vrai.
Mais bien sûr.
Mais c'est pas vrai. Enfin, ça dure plus de 3 heures. Il y a 15 personnages qui ont tous des destinées, des conflits. Enfin, je veux dire, l'époux de Kate Winslet, il a une évolution, il a un conflit, il a des conflits
loyautés. Le film est centré.
Non, il y a Kathy Bates.
Mais Kathy Bates également. Le Mr. Pickles, c'est pareil. L'architecte du navire.
La structure du récit de Titanic, et c'est pour ça qu'elle est extrêmement robuste et extrêmement puissante, c'est que toute en dehors du film catastrophe, la structure et les arcs narratifs sont construits autour de 3 personnages et autour de ce triangle amoureux impossible entre
Nicolas
Hoult, DiCaprio.
Nicolas, c'est le centre de gravité du film. Mais autour de ce centre de gravité,
mais c'est cette histoire-là qui raconte, Simon.
Mais
tu peux pas comparer ça à Avatar où t'as 15 personnages dont on a rien à foutre et qui sont absolument pas racontés.
Non, c'est toi qui parles sur Avatar, c'est pas le sujet. Mais c'est toi qui parles sur Avatar, c'est pas le sujet.
Quelle mauvaise foi.
Mais non, vraiment pas.
Quelle mauvaise.
Mais non, vraiment pas. Je suis très sincère. C'est que je remarque que dans cette structure où il y a un centre de gravité autour d'un duo ou trio de personnages, nous avons autour d'eux une quinzaine de personnages secondaires qui, tout secondaire qu'ils soient, ont des conflits, ont des enjeux, ne sont jamais des fonctions et nourrissent précisément ce que disait Sophie de manière assez géniale, que va-t-il leur arriver et à quel moment de l'histoire ? Et bien ça demande un talent de pureté, d'épure, de mécanique, de précision qui est absolument incroyable. Et à la fin
et qui est très lié à la nature même du film catastrophe, c'est-à-dire on pose des personnages et on se demande comment ils vont s'en sortir.
Tout à fait, mais faire à ce niveau-là d'excellence, ça me paraît rarissime.
Arthur,
moi ça va être très bête parce qu'encore une fois j'ai redécouvert le film ce matin, mais il y a un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que à l'ère d'Internet et de YouTube, j'ai revu des scènes un nombre de fois incalculable et je connais la scène sur le bateau, je connais la scène où elle commence à parler du discours et comment là. Le bateau sous l'eau devient le bateau dans la vraie vie. Je connais forcément la scène où ils dansent, où ils tournent ensemble. Je connaissais le film en fait par cœur sans l'avoir revu depuis que j'avais 10 ans. Et en fait, ce qui est fou, c'est que donc toutes ces séquences sont cultes, mais quand on les revoit dans l'intégralité, toutes sont marquantes d'une manière différente. C'est-à-dire que je connaissais la scène de DiCaprio, Kate Winslet, je suis la reine du monde. Enfin non, ça c'est quand lui il est tout seul.
Alors ça c'est dans RuPaul, tu trompes.
Non mais la scène où il écrit ça c'est quand il est tout seul et ensuite il le refait avec elle. Et en fait ça je le voyais comme justement
dans sa machine qui vole. Pardon, oui non je connais pas du tout le film.
Et en fait moi quand je le revois ce matin je pleure mais de frissons face à la beauté de cette scène qui pour moi était censée raconter autre chose. Quand je vois Draw Me Like a French Girl, j'avais oublié qu'auparavant il y avait les dessins.
Dessine-moi comme une de tes françaises.
C'est ça.
Oui bah écoute, je sais pas très bien dessiner, je fais des bonnes patates. Simon, arrête de me demander, ça me gêne.
Patate-moi comme une de tes
françaises. Voilà, moi ce qui me saute aux yeux, c'est à quel point en fait chaque séquence du film est devenue culte, alors même que quand on connaît pas le film, on connaît les scènes, et quand on voit les scènes dans le film, elles sont encore plus
puissantes. Je pense que ça a à voir aussi avec un des aspects les plus courageux en fait de la mise en scène de Cameron, c'est que pour moi c'est un des cinéastes qui recule le moins devant le lyrisme. C'est qu'il y a des cinéastes, ils ont peur de ça. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'une situation là est en train de partir vraiment dans le lyrisme, voire même dans une espèce de surlignage émotionnel,
la sentimentalité en fait.
Exactement, la sentimentalité, ils vont avoir peur de ça, ils vont avoir peur d'être gnangnan et donc ils vont pas y aller. Cameron, il y va quoi.
Mais vous êtes dingue quand même, c'est-à-dire que depuis quand les cinéastes ont peur du mélo?
Bah, depuis très toujours. Mais je pourrais te citer un sacré paquet de noms hein,
vous êtes fou, c'est ce qui est très beau de ce que fait Cameron, c'est qu'il se réapproprie un mélo
ontologique, c'est-à-dire qu'il arrive, et comme vous l'avez très bien dit, à mettre la petite histoire et à rendre la petite histoire plus grande et plus belle et plus universelle que la grande histoire. Mais enfin, je veux dire, ça reste une sorte de magnifique mélo
dans un triangle amoureux impossible. La séquence où DiCaprio s'écrit « Je suis le roi du monde » à la proue du Titanic, tu peux être certain qu'un sacré paquet de cinéastes ne l'aurait pas filmé.
Ou alors il l'aurait fait au montage.
Parce qu'il se serait dit « Non, mais là, quand même, c'est un peu too much. » Bah non, en fait, parce que c'est ce côté too much qui va avec l'ampleur du projet, qui va avec la dimension plus grande que nature du film et qui, dans ce contexte, fonctionne parfaitement
parce qu'elle raconte plein de trucs en plus.
Ce plan tout simplement d'un couple de petits vieux qui vont mourir et qui sont sur leur lit l'eau qui passe en dessous, qui d'un point de vue matériel, physique, n'a aucun sens. C'est-à-dire, le lit devrait être emporté, ce que tu vois est purement lyrique, purement onirique même.
Complètement.
Et la force incroyable du film, c'est que notre ami Cameron, qui s'est déjà baladé dans Abyss, dans l'eau et on va dire qui a travaillé à la question de la submersion, va être capable de mener de front non seulement un film catastrophe mais aussi un film de suspense. Il y a des moments de tension quand il faut échapper à l'eau dans les coursives, survivre, progresser dans le bateau, qui sont des leçons absolues de découpage et de montage en termes de tension, et qui vont de pair avec une puissance évocatrice et onirique qui est absolument démentielle.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Le sachiez-vous, c'est Cameron qui a fait les dessins. Le Draw Me One of Your...
C'est vrai
Oui, c'est lui qui a fait les dessins.
Les dessins de Kate Winslet.
Et ce sont même ses mains qui apparaissent dans le plan,
bien sûr.
Dans le plan subjectif, ce sont les mains de Cameron.
Bah, du coup, une fois que tu le sais, tu le vois, parce que vraiment, tu vois que c'est pas des mains de jeune premier, c'est des mains d'un cinquantenaire, quoi. Mais ouais, c'est les mains de James Cameron qui l'avait dessiné.
Qui n'était pas cinquantenaire à l'époque.
Et pour l'anecdote, comme Kate Winslet savait qu'elle allait devoir se montrer nue à un moment, elle a flashé Leonardo DiCaprio avant qu'il tourne la scène.
Voilà. Elle a quoi ?
Elle s'est mise à poil, elle est partie, quoi.
Voilà. Pour franchir la limite.
Pour briser la glace, quoi. Bon, après, ils savaient qu'ils allaient le faire. Hein. C'est pas problématique comme d'autres situations. Hein. C'était pour préparer la. Bref, voyez ce que je veux dire,
mais
merde.
Ça aussi, il y a un truc à dire là-dessus, quand même, rapidement. Mais ça aussi, putain, quand on y pense, on est sur un film hollywoodien qui a coûté je sais plus combien de centaines de millions de dollars.
200 millions.
Ouais, 200 millions. Sans compter les frais marketing, en sachant qu'il a dépassé son budget initial, parce que le tournage
a été 110 millions le budget initial.
Budget initial 110, il a fait plus 90, donc il a éclaté le budget. C'est un projet pharaonique. Il y a une énorme attente des studios derrière.
Non, une terreur. Ils sont persuadés que ça se tente.
Non, mais il y a une terreur plus grande que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la presse commence à s'emparer du truc et à dire que le film est en dépassement de budget, etc. Il y a plein de grosses huiles de la Fox qui commencent à démissionner parce qu'ils pensent que la Fox va couler à cause du Titanic.
Waouh, ils ont dû le regretter très amèrement. Ouais.
Image. Non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un moment donné où il est question de saucissonner le film pour en faire une mini-série télé.
Ah oui, non, mais il est
passé. C'est-à-dire que le film est passé vraiment à un chouïa et un pouillem de l'annulation.
Un pouillem,
c'est le.
Ah non, mais il a failli se faire massacrer 15 fois.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rumeur qui dit que Cameron a renoncé à ses royalties pour le film. Qui est
non,
une
son
rumeur...
salaire, carrément.
Non, c'est faux.
Ah d'accord.
Ouais,
Il a proposé de renoncer à ses royalties, mais l'un des pontes de la Fox a dit qu'il n'en était pas question. Il en a touché moins, mais néanmoins, il a quand même touché copieusement des royalties, puisque le film fait 1,8 milliard de recettes pour 200 millions de budget. Donc James Cameron n'est pas une personne à plaindre en termes de
pourcentage. Ah non, clairement pas, mais justement, mais c'est là que... C'est
il
là
peut
que
voyager
c'est...
en première classe.
C'est là que la scène dont Sophie parlait via l'anecdote est intéressante. C'est qu'encore une fois, on est face à un projet gigantesque avec des risques terribles et de se dire qu'il y a quand même dans ce film-là une scène de nu quasi intégrale.
Non.
Quand on sait le... Si. Quand on sait le quasi intégral, il y a une partie qu'on voit pas, mais on voit quand même oui, 90% du corps de Kate Winslet apparaît à l'écran.
C'est topless, mais on voit pas l'entrejambe.
Oui, mais on sait le rapport complexe de la nudité au cinéma via la censure. Combien de films on a vu qui, parce qu'ils coûtaient un poil trop cher, montraient une scène de sexe où, bah, tiens, le mec a un jean et la meuf a un soutif alors que personne ne fait l'amour comme ça, bah parce qu'en fait, il y a trop de risques, il y a trop de risques à perdre une classification dans la charte de la censure. Bah là, le film, il assume le truc. Et cette scène-là qui...
Et il l'assume longuement.
Bien sûr.
C'est pas un plan au
aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une scène qui est évidente. Tout le monde se dit, bah oui, une scène de nu dans Titanic, tout est normal. Non, c'est pas normal en termes de fabrication. C'est un pari osé de la part de Cameron et surtout de la part de son actrice qui n'était pas la star qu'elle est aujourd'hui.
Qui n'était pas une star.
Puisqu'elle est devenue une star via ce film-là. C'était osé de leur part et ça a payé. Et pour le coup, le nu intégral, il est dans le dessin.
Oui.
Dans le dessin, elle est intégralement nue. Et donc, il a joué avec cette ambiguïté-là aussi dans un geste un peu Hitchcockien, Cameron.
Et donc, fun fact, puisque Cameron, on sait qu'il est extrêmement sourcilleux, pointilleux, qu'il a fait refaire, qu'il fait refaire des plans. Encore une fois, que le décor, que les effets spéciaux sont XXL, etc. Et que l'ambiance sur le plateau, comme souvent sur les plateaux de Cameron, était absolument détestable. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé cette anecdote assez amusante. C'est que un soir, un membre de l'équipe a empoisonné le repas de la cantine.
Vous connaissez ça, au début de la prod.
En mettant des poisons dans la soupe de palourdes. 56 personnes, dont Cameron, ont été hospitalisées. C'est-à-dire que vraiment, les gens n'ont
pas du poison, des hallucinogènes.
C'était de la drogue.
Ouais, c'est de la drogue.
C'était des hallucinogènes.
Et Gaspard Noé, on a fait un film.
La phénylcycline, exactement. Des hallucinogènes, et ils sont tous retrouvés à halluciner complètement.
Mais la phénylcycline, c'est hallucinogène ?
Ouais. En fait, la théorie, c'est que c'est un ancien technicien qui vexé a mis de la drogue dans le catering, dans la cantine, dans un plat de palourdes. Et qu'en fait, c'était une scène. Donc tout le monde en a pris et James Cameron en a pris, mais pas beaucoup, ce qui fait que lui, il a vomi et après ça allait mieux, mais que tous les autres étaient en train de faire des danses hystériques, complètement fous et tout le monde a fini aux urgences.
Il faut
un vrai épisode, ça.
Dédéifier James Cameron parce qu'on a tendance à le considérer, juste titre, hein, comme un auteur.
Majeur.
Gigantesque et majeur. James Cameron est aussi une sale race, hein, qui a quand même, sur le tournage d'Abyss, failli littéralement noyer Marie-Elisabeth Mastrantonio et Ed Harris, puisqu'ils devaient suivre un parcours sous-marin en apnée relative, c'est-à-dire qu'en gros, ils retenaient leur respiration pendant une minute, et puis après, ils prenaient une gorgée d'oxygène à un endroit précis et spécifiquement déterminé, et puis il continuait la scène. Et Cameron, parce qu'il avait envie de ressentir un peu plus d'authenticité, un peu plus de détresse, a décalé de 5 mètres les bouteilles d'oxygène sur le parcours sans le dire aux acteurs, qui ont littéralement failli se noyer. Et Marie-Elisabeth Mastrantonio a quitté le plateau pour ne plus jamais y revenir après. Ouais, c'est pour ça que quand elle est ranimée, c'est pas un plan sur elle, c'est un plan sur Ed Harris, parce qu'entre temps elle s'est barrée du plateau.
James
Cameron, c'est un malade, hein. Faut
quelle
quand même
belle
le rappeler.
Personne,
hein.
Mais il avait pareil poussé Kate Winslet dans ses retranchements pour la préparation d'Avatar 2 aussi, hein.
Bien sûr, mais non, mais sans compter que
quel beau film. Ah, non,
quand ils sont dans la flotte à la fin de Titanic, la flotte n'est pas à 25 degrés, on n'est pas dans une piscine tempérée, hein. La flotte est à, je crois, 6 ou 7 degrés.
Mais parce qu'ils voulaient pas faire de
parce qu'ils voulaient de la vraie buée.
Il voulait de la vraie buée.
C'est quand même un bâtard. Hein. John Carpenter a fait pareil.
Ah bah, puis moi, j'ai eu l'opportunité d'échanger pas mal il y a quelques années avec Steve Johnson, qui est donc un des grands responsables, les créateurs d'effets spéciaux hollywoodiens. Pour info, c'est notamment lui qui a fait les tentacules, quand ils ne sont pas en numérique, c'est-à-dire dans la majeure partie des plans du film, les tentacules de Dr. Octopus dans Spider-Man 2. C'est lui qui fait les extraterrestres luminescents dans Abyss. Et il a littéralement explosé en vol pendant le tournage. Il a réussi à faire ses effets. Mais les conditions de Cameron et le délire autour de la fabrication du film d'Abyss étaient telles qu'il a littéralement fait une dépression nerveuse sur le plateau.
Mais du coup, ça pose une question d'ordre presque philosophique. Et je suis presque curieux d'avoir votre avis sur cette question-là. C'est qu'en fait, clairement, Titanic, la grandeur de Titanic est en grande partie due au caractère extrêmement presque fou, en fait, de Cameron, qui s'accroche à des idées jusqu'à les mener à terme, parfois contre l'avis de tout le monde, et notamment sur la reconstitution des décors qui ont coûté extrêmement cher, qui ont été très compliqués, les effets spéciaux numériques, où c'était quand même un peu un pari sur l'avenir, hein, parce qu'il y a une partie des effets spéciaux numériques le concept même a été développé pendant le tournage, parce qu'il fallait bien à un moment faire des rendus. Donc il y a quand même une espèce de folie créative qui a nourri le projet. Le film ressemblerait pas à ça si Cameron n'avait pas cette folie-là. En même temps, est-ce que c'est normal d'avoir des cinéastes qui poussent les degrés de fabrication du cinéma jusqu'à ce point-là, en fait, jusqu'au point, parfois malheureusement, d'épuiser physiquement et psychologiquement leurs équipes?
On peut poser la question à Keshish si tu veux.
Mais si tu veux, Keshish ne reconstruit pas le Titanic. Donc lui, pour le coup, la question se pose pas, en fait. Faut pas qu'il le fasse, point.
Il reconstruit le Titanic.
Oh, doudoudoudou.
c'était une blague de 6 mois. Moi, j'ai
non, mais moi, c'est une question à laquelle, personnellement, j'ai pas la réponse. C'est pour ça que je vous la pose. C'est que moi, je suis très tiraillé sur ce sujet.
Non, mais si la question de savoir s'il faut être un tortionnaire pour sortir le mieux du cinéma, le mieux de tes comédiens, etc., l'histoire du cinéma a répondu. Il y a des grands tortionnaires qui ont été Kubrick, qui ont été des grands directeurs. On peut espérer qu'aujourd'hui, on soit sorti de ce type de rapport sadomasochiste et aux équipes techniques et aux comédiens, et qu'on puisse être sur des plateaux sans être dans des rapports de domination et de harcèlement qui font du mal globalement à tout le monde. Je sais pas,
En fait, je me dis que c'est quelque chose assez générationnel et sociétal, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne se posait pas la question et qu'on a aussi toléré, on a toléré des comportements qu'aujourd'hui on ne tolérerait plus, et que donc on laissait une porte grande ouverte aux réalisateurs pour aussi tyranniser, parce que c'était aussi dans l'ordre des choses, et qu'aujourd'hui, ce ne serait juste plus concevable. Et si la personne dépasse cette limite parce qu'elle est prévenue, bah en fait, elle agit mal. Et pour moi, il ne faut pas aller... Enfin, je suis des personnes qui ne vont pas voir les Kechiches, par exemple, mais qui tolèrent d'aller regarder même un ancien Hitchcock, parce que je pense que Hitchcock, on le laissait faire. On savait que c'était un tyran, mais c'était encore dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, les réalisateurs...
Et Kubrick ?
Bah, Kubrick, c'est un peu pareil, hein, malheureusement.
Après, attention, avec Kubrick, on a surjoué le côté tyrannique, parce qu'il a été tyrannique avec Shelley Duvall sur Shining. C'est à peu près le.
Il a été tyrannique,
cruel.
Il a été cruel avec beaucoup.
Il a été cruel, mais c'était.
Les Kidman Crews te racontent qu'il n'a pas été très, très doux avec eux sur Eyes Wide Shut non plus. Hein.
Ah, c'est plus complexe que ça, Eyes Wide Shut. C'est plus
compliqué. Non, mais donc, en fait, pour moi, c'est du moment qu'on a établi des règles qui sont claires et nettes maintenant, je pense qu'il y a des comportements qui ne sont plus tolérables aujourd'hui.
Et tu vois,
aujourd'hui ou depuis quelques années, quoi. Mais
Et tu vois, Kate Winslet, quand elle parle de l'entraînement hardcore qu'elle a eu sur Avatar 2, elle le dit pas comme quelque chose dont elle a souffert. Enfin, tu vois, ça a été un entraînement. Malgré tout, je pense que Cameron, il le fait de moins en moins, ce qu'il a fait sur Titanic, je pense.
Bah, je pense aussi que les progrès du cinéma numérique lui ont entre guillemets un peu facilité la tâche. C'est-à-dire qu'il a plus besoin d'aller dans ces extrêmes-là pour réaliser ce qu'il réalise, mais ça pose quand même question. Hein,
non, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je vais te dire, j'ai l'intime conviction, mais ce n'est qu'une conviction. Je prétends pas détenir un savoir, que l'exigence n'est pas la brutalité, que l'intransigeance n'est pas la violence, et que le perfectionnisme n'est pas nécessairement une domination sur les autres. Et je prétends qu'il n'y a pas un seul résultat futile, magnifique, hein, qui a été obtenu par la cruauté et la violence sur ses collaborateurs, qui n'aurait pas été possible à obtenir, voire obtenir même de manière encore plus réussie, sans en passer par là. Et que, en fait, tout simplement, à la fois, on va dire, la brutalité, la domination des auteurs sur les plateaux, je pense qu'hélas, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, hein, est validée, parce que ce serait un symptôme du génie. Ce que je trouve assez dégueulasse et problématique. Moi, ça ne m'empêche pas de m'intéresser à un film, à une œuvre filmique, mais alors vraiment, je n'adhère pas du tout au narratif que ce serait, voilà, une marque de fièvre, de qualité, de grandeur. Je pense que c'est complètement faux, et que c'est une manière inconsciente, hein, pas forcément rationalisée, je veux pas du tout faire du complotisme, mais c'est une manière des abuseurs que de s'organiser de manière à pouvoir abuser. Dans le cadre de faire de la mise en scène, tu vois. Et voilà, alors après, je fais une différence entre un gros con caractériel et quelqu'un qui crée des relations perverses sur son lieu de travail, tu vois. C'est pas tout à fait la même chose en termes de nature, selon moi. Mais c'est une vraie question. Et je vais te dire, le fameux « Bah ouais, mais pour obtenir ça, il fallait demander ça ou il fallait être comme ça », je n'y crois pas un instant.
Moi non plus.
On fait un dernier tour de table rapidement. Une scène, un endroit, un moment qui fait tout le sel, qui pour vous est l'incarnation de ce film, qui en fait le génie, que vous l'avez retrouvé nulle part ailleurs, et qui est voilà, le nec plus ultra de Titanic. On fait le tour de table. Alexis, pour commencer.
La fin, la toute fin, littéralement. C'est-à-dire le moment où en fait, Kate Winslet... les personnages de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio deviennent littéralement des fantômes et qu'on les récupère dans ce décor de Titanic qui était pendant tout le film un décor ultra réaliste, ultra crédible, palpable, et qui d'un seul coup devient ce qu'en fait il a toujours été depuis le début, à savoir un décor onirique. Et ça, moi, cette scène finale là, je la trouve particulièrement spectaculaire et particulièrement bien sentie. Et c'est moi le moment où le film me chope vraiment en termes d'émotion et me bouleverse et me dépasse en fait, et que là je sens qu'il y a un truc qui est plus grand que moi-même, c'est sur cette scène-là. Avant, c'est touchant, mais c'est pas encore tout à fait ça, et j'aime bien l'idée que Cameron ait attendu vraiment la dernière séquence pour lâcher les grandes eaux, et ça, ouais, c'est une séquence qui m'est restée en mémoire pour toujours, je pense.
Sophie ?
Bah moi, ce qui me touche le plus, c'est vraiment le côté catastrophe du film, et que mon personnage préféré de Titanic, c'est Mr. Andrews, incarné par Victor Garber. Moi, la scène qui me déchire le plus, c'est quand il va voir les mecs qui mettent les gens dans les bateaux, qui disent « J'ai vu partir un canot avec 12 personnes !» Il n'allait pas en contenir 85. Mais non, mais c'est pour le poids. Non, ils ont été faits les tests sur 90 hommes. Nanana. Et moi, c'est la scène qui me bouleverse parce que tu sens que c'est le seul qui est encore concerné, qui est encore dans le moment et qu'il pense qu'il y a des gens à sauver. Parce que les autres, ils sont dans la panique et c'est le seul qui, jusqu'au bout, garde sa vraie posture. C'est vraiment, pour moi, le personnage le plus noble
du
film.
La scène de la cheminée, quoi.
Mais bien sûr.
Parce, que c'est, parce qu'encore une fois, c'est un personnage de pure noblesse et de pure intégrité et qui sert grandement aussi à nourrir le côté universel du film parce que n'importe quel spectateur trouve ce personnage bouleversant.
Ah, c'est marrant, j'ai pas du tout la même lecture que vous.
Alors ouais. Arthur.
Juste un instant, en une seconde. Pour moi, c'est l'idiot utile de la bourgeoisie qui est persuadé que ça pourrait être mieux, qu'on aurait dû faire mieux, qu'il y avait tout pour faire mieux, alors qu'en fait, non, le système est fait et conçu pour aboutir à ce dont il se désole. Et pour moi, c'est vraiment celui qui jusqu'au bout ne comprend pas qu'il a nourri ce truc-là. Ah, moi, je le trouve monstrueux.
Ah ouais. Mais non.
Il serait monstrueux s'il partait dans un canot. Or, il part.
Mais non, mais parce qu'il est inconscient justement. Il ne jusqu'au bout, il ne comprend pas ce qu'il a fait.
Parce que c'est le seul qui dit dès le départ que le bateau aurait pu être construit autrement, qu'il aurait pu y avoir plus de canots et qu'il a été fait à la va-vite. C'est le seul qui a conscience que le
système. Mais il est quand même là.
Bah oui, parce qu'il tente sa chance.
Simon, ton extrait préféré, ton passage.
Non, vas-y.
Non, Simon, vas-y.
Alors moi, c'est assez voisin d'ailleurs de ce que décrivait Alexis. Moi, il faut savoir, il y a un seul truc qui me fait peur. Enfin, non pas que je sois particulièrement courageux, mais je veux dire qui évoque en moi une terreur profonde. C'est les épaves. L'idée qu'il y ait des gens qui aillent sous l'eau avec des petits sous-marins, des petites tenues de plongée, qui rentrent dans ces espèces de cimetières spectro-vermoulus. Je veux dire, il faut leur tirer dessus, ces gens sont tarés, quoi. Il ne faut pas les laisser remonter à la surface, ils doivent voir des trucs de l'au-delà là-dedans.
Tu parles de James Cameron, là, du coup ?
Tout le monde. Une épave, c'est pour moi l'idée même la plus profonde de la peur. C'est une idée qui me terrifie. Les images, tu vois, au début du film, dans Titanic, dans l'épave, mais vraiment, c'est, pour moi, c'est le pire film d'horreur que j'ai jamais vu toute ma vie.
Oui, mais que ce soit une chose qui te terrifie, c'est une chose, mais quel est le plan ?
Et j'en arrive à ça.
Je te remercie de répondre à ma question quand même, d'avoir un minimum de respect pour moi. Je sais bien que tu
vas faire un peu de construction et un peu de climax.
Non, je suis désolé, non, mais quand même, bon, je me barre.
Bref, c'est quand, alors que le bateau n'a donc pas encore coulé, que c'est d'ailleurs, c'est le chaos total, que nos deux héros sont en train de remonter jusque sur le pont, tu vois, pour essayer de s'échapper. Mais donc, il traverse le navire où là, qui déjà est complètement penché, en fait. Et alors qu'il ressemble encore à cet écrin de grand luxe, c'est déjà une épave. Il n'a pas coulé, on n'est pas encore sous l'eau, mais tu vois, tout est en train de s'écrouler. Et alors même qu'il existe encore comme Titanic, c'est déjà une épave. Et moi, tu vois, c'est quand tu as dit le mot spectre ou fantôme tout à l'heure, ça m'a fait tilt immédiatement. Les voir essayer de se sauver et de s'échapper alors que tout n'est déjà que mort et désolation, là où il y a un truc.
Mais c'est totalement un film de fantôme. C'est pas rien d'ailleurs si Cameron a fait quelques années après, en 2003 ou 2004, je crois, un documentaire qui s'appelle Les fantômes du Titanic, en anglais Ghost of the Abyss, parce qu'il aime bien se faire des autoclins d'œil. Et ce film-là, vraiment, est une espèce de littéralement de mise en scène, on filme l'épave et sur l'épave on va rajouter des éléments en post-production qui sont là pour nous rappeler qu'avant d'être une épave c'était un bateau avec de la vie, mais du coup ça confirme que Titanic était bel et bien un film de fantôme.
Arthur.
Et ben moi, vu que ce que je préfère dans le film c'est l'histoire d'amour et notamment l'écriture du personnage de Rose, moi la scène qui m'a, je pense, le plus bouleversé entre guillemets, c'est il y a quand même dans la première moitié, donc avant que l'iceberg arrive, parce que du coup j'étais choqué de voir que l'iceberg arrivait au bout de la moitié du film, hein, au bout de 1h40 sur 3h15, il y a un truc d'aller et retour sur la condition de Rose. Est-ce que j'accepte de quitter ma condition sociale et mon mariage pour aller vers l'inconnu, la pauvreté et ce beau Jack? Et donc au début elle y va, puis finalement il y a sa mère qui lui dit si tu fais ça attention machin, puis elle revient dans sa famille et elle y retourne, et il y a un moment où elle est à un dîner à table et pour elle c'est insupportable. Et elle se dit, je ne peux plus vivre pour les autres, il faut que je vive pour moi, et elle part le rejoindre. Et c'est le début, en fait, c'est pas la scène en elle-même de les deux sur le fronton, devant, en train de lever les bras au ciel, machin, c'est la scène juste avant.
C'est quand il lui donne le petit bout de papier avec rejoins-moi sous l'horloge
Non, c'est encore avant.
D'accord, ok.
En fait, encore une fois, cette lecture, il y en a plusieurs. Il y a déjà, ça, c'est sublime. Quand Jack est invité au dîner et qu'il ne sent pas à sa place et qu'il lui dit « Viens, descends en bas, viens me rejoindre moi » et vois comment nous, on s'amuse alors que vous, vous faites chier là-haut. Mais c'est encore après, quand elle a finalement dit non, puis il essaie de la convaincre dans une cabine, elle dit non. Et en fait, elle a un dîner, elle se fait chier, elle est toute seule, elle va le rejoindre. Je trouve cette scène, mais qui raconte tellement tout, en fait, de la trajectoire de ces deux personnages et de cette histoire d'amour. Moi, c'est cette scène-là que je garde.
Et moi, j'ai pas le droit de donner mon avis, mais quand même, vraiment très rapidement, moi je crois qu'il y a vraiment un truc, c'est vraiment un soupçon, mais que je trouve absolument merveilleux en termes de cinéma et en termes de cinéma catastrophe, c'est le moment où l'horizontalité change pour la verticalité.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est ce moment où le bateau se casse et où d'un seul coup il se retrouve complètement vertical à l'eau et où d'un seul coup il y a une sorte
de vertige, quelque chose qui moi me enfin dont j'ai le souvenir vraiment que ça m'a donné, enfin ça m'a glacé l'intérieur, et ce changement complètement de référent. Enfin, encore une fois, moi ce que je trouve là le plus réussi du film, c'est vraiment cette partie et la générosité de la catastrophe qui n'avait pas été faite au cinéma depuis très très longtemps, hein, parce que le film catastrophe était vraiment un genre qui était parti en déréance. Et ce changement de l'horizontalité pour la verticalité sur la toute fin, quand le bateau se brise en deux, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Et vous, quel est Arthur, un dernier mot?
Oui, juste un dernier mot pour rapport à ça, parce qu'il faut peut-être mentionner qu'effectivement le film ressort en salle dans une version remasterisée. Faut le dire la vérité, personne n'a vu cette nouvelle version puisqu'on devait le voir en projection presse. La projection presse a été annulée.
Et un salut amical à Jean-Baptiste Péan de l'agence Cartel, qui du coup est celui avec lequel toi et moi, Arthur, on a discuté pour avoir accès à cette projection qui a été annulée, mais vraiment dernière minute. Et il nous a envoyé un mail depuis pour nous dire vous prenez n'importe quelle séance et c'est pour nous. Vraiment, je salue ce geste très sympathique.
Moi, ce que je voulais juste mentionner, c'est que donc, c'est une nouvelle remasterisation de Cameron. Pour le coup, aucun de nous l'a vu dans cette nouvelle version, donc on ne sait pas à quoi elle ressemble. Moi, j'ai regardé la version Blu-ray, parce que j'ai un Blu-ray chez moi, et j'étais frappé de voir que même avant cette nouvelle remasterisation, justement, cette scène du bateau qui se casse, l'arrivée du glaçon, et les moments les plus CGI du film.
L'arrivée du glaçon.
Bah, c'est un petit glaçon, quoi.
C'est un glaçon dans un verre actuellement, non?
Oui, c'est ça. Pour moi, dans cette nouvelle version, il me semble que c'est plus Céline Dion, c'est Bernard Lavilliers qui chante.
Ah d'accord, ok. Mais du coup, voilà, juste pour dire que les effets spéciaux ont un peu vieilli, et en même temps, ça ne change en rien le visionnage. Et je me demande à quel point ça, c'est quelque chose qui a évolué dans la nouvelle remonture.
Faut savoir, j'ai peur de dire une connerie, mais j'ai vu en fait plusieurs communiqués. Certains le mentionnaient, d'autres ne le mentionnaient pas, donc je suis encore un peu dans le flou. Mais évidemment, c'est un remaster 4K.
Ouais.
On peut supposer, connaissant James Cameron, qu'il a un petit peu retouché les effets numériques.
C'est ça. Clairement, ouais.
Surtout
quand on voit ce qu'il a fait sur Avatar 1.
J'ai vu des communiqués disant que le film avait été remasterisé en 4K. HFR.
Ah ouais, bah, c'est ça le problème.
Tous les communiqués ne mentionnent pas.
Mais parce qu'ils ne veulent pas communiquer sur le HFR. Attends, même Avatar, ils ont vraiment attendu le dernier moment pour faire.
Il y a un truc.
Je sais pas. Je suis très très excité à l'idée de le découvrir en HFR, mais comme effectivement on ne l'a pas vu dans ce format-là, alors qu'on aurait dû, on n'en a pas parlé. Mais oui, le film ressort dans une version qui est, on peut littéralement qualifier, non pas de remasterisé, mais une version augmentée et inédite du film. Donc c'est assez excitant.
Eh bien, dites-nous, vous, si vous avez été excité par cette version augmentée, inédite, est-ce que vous êtes plutôt première ou plutôt troisième classe? Vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires. Racontez-nous pourquoi Titanic est pour vous un film cher à votre cœur. Unpopular Opinion, c'est un film que vous ne supportez peut-être pas. Vous pouvez tout nous dire, on vous écoute. Et Simon Rio vous répond in extenso, pas à moins de 3700-3800 signes. En attendant, nous, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réaliser sans trucage. On parlera de Ant-Man 3 et je leur interdirai de prononcer les mots « lait », « effets spéciaux » et « paracétamol ». Ça va être fun. Allez, bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.